Toutes les clémences comme un enfant se reposeraient enfin.
Voilà, c'était Clémence en vacances, Anne Sylvestre, et ce titre préfigure ce qui va nous arriver dès la fin de cette émission des Promesses de l'Aube à 9h, être en vacances jusqu'en septembre. Mais en attendant, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir en studio trois invités, Stéphanie Danens, D.E.B.
Bonjour.
Bienvenue, Stéphanie. Chloé Deling, D.E.B. aussi, historienne.
Bonjour.
Bienvenue. Et Amandine Thiberguin de Natagora. Bienvenue, Amandine.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les trois. Merci d'être venues dans ces Promesses de l'Aube, les dernières de la saison, pour nous parler du dernier numéro de Bruxelles en mouvement, le magazine d'inter-environnement Bruxelles. Et ce dernier numéro est consacré aux arbres avec de très jolies illustrations de Caroline Bonfond. Vraiment, IEB est toujours exceptionnel dans les illustrations de son Bruxelles en mouvement. Et donc, arbres, c'est la thématique de ce numéro. Les arbres au pluriel, donc ces arbres qui à la fois nous donnent du plaisir visuel, du plaisir olfactif, du bien-être aussi, qui permettra à nos villes d'être plus aérées, plus froides aussi, plus tempérées. Et donc ces arbres aussi qu'on défend, certains les défendent, d'autres veulent les abattre. Et donc c'est un peu de ça dont il s'agit dans ce numéro qui a été rédigé comme la plupart des numéros d'IEB, à la fois par des membres de votre équipe IEB et des personnes extérieures. Et donc c'est pour ça que vous êtes là toutes les trois. Stéphanie, je ne sais pas si tu veux commencer par expliquer, revenir un peu sur qui est IEB et qu'est-ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé à consacrer ce numéro aux arbres. Donc, en quoi ça fait écho à votre actualité de travail aussi?
Bien sûr. Alors, IEB, donc Inter-Environnement Bruxelles, c'est une fédération de comités d'habitants et d'autres associations qui, en fait, défendent le cadre de vie des habitants à Bruxelles, dans la ville-région. Cadre de vie qui s'articule autour des projets de mobilité, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de logement aussi. On a un travail énorme qui est fait pour la défense du logement social. D'ailleurs, le prochain numéro de septembre, il y en a un qui sort sur la poésie, le slam, etc., urbain, mais en septembre, il sera consacré au logement social. Voilà. Et donc, c'est une asso qui est née dans les années 70, un peu à contre-courant des politiques d'aménagement du territoire qui défiguraient la ville, qui la détruisaient. Et donc, c'est une asso qui s'inscrit dans les luttes urbaines et le droit à la ville. Voilà, ça, c'est pour camper un peu d'où on parle et qui on est. Et puis pourquoi un BEM sur les arbres, en fait, parce que justement ces dernières années, on a été énormément sollicité par des comités d'habitants ou des riverains qui faisaient face à des abattages d'arbres dans leur quartier, mais des abattages qui n'étaient pas annoncés, qui étaient irréguliers, ou des élagages sauvages des arbres et qui nous sollicitaient. Et nous, on était un petit peu démunis à IEB, chez les naturalistes, je pense, comme Natagora, etc. Ces associations-là sont peut-être plus outillées pour répondre aux riverains, mais en tout cas, force est de constater qu'au niveau législatif, à Bruxelles, la législation est assez complexe. C'est une lasagne institutionnelle entre différentes administrations, et puis les communes ont aussi un pouvoir par rapport aux abattages des arbres, et donc souvent les administrations se renvoient la balle, les riverains ne savent pas à qui s'adresser, etc. Et puis il y avait aussi au-delà de cet enjeu administratif de comment on gère en fait le bon entretien des arbres, etc., il y avait aussi la question de tous ces services écosystémiques, j'utilise le terme expressément, que rendent les arbres et qui sont extrêmement valorisés aujourd'hui dans le discours justement des politiques et des stratégies politiques. Et donc l'idée, c'était de mettre en confrontation aussi à la fois le concernement des riverains, des habitants bruxellois par rapport à la préservation de cette communauté d'arbres. Et qui est maltraité le plus souvent, et en même temps ce discours qui se veut en fait une réponse déjà au dérèglement climatique au pluriel, voilà, et de les mettre en confrontation et de voir en fait comment on pourrait mieux protéger ces arbres et à quoi correspond ce discours en fait. Voilà.
Et justement, tu as évoqué la question de la communauté d'arbres. C'est un élément qui parcourt aussi un peu le numéro. Est-ce qu'on considère l'arbre en tant qu'arbre spécifique, comme individu, je vais oublier le terme maintenant, pas respectable, vénérable,
remarquable,
voilà. Ou bien est-ce que justement c'est les arbres en tant que collectif d'arbres qu'on appréhende. Et donc ce que tu as évoqué aussi, c'est le fait que c'est un rapport qui a évolué peut-être dans l'histoire, qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas ces dernières années que les habitants se sont réveillés en se disant les arbres, quand même, ça a une valeur dans notre environnement proche.
Mm-hmm. Oui, bien sûr, à travers l'histoire, et ça, l'article de Chloé Deligne, justement, qui est avec nous aujourd'hui, traite de cette question historique de l'attention que les humains porté aux arbres, parce que c'est toujours évidemment par rapport aux humains. Et effectivement, et en plus, cette histoire n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'elle est accidentée. Mais c'est vrai que quand même énormément de... En tout cas, on peut parler du point de vue de la société occidentale, puisque c'est ici qu'on est et qu'on habite, donc on ne peut pas parler des sociétés animistes qui reconnaissent même des droits politiques, enfin, qui ont un concernement... pour les arbres au-delà de la symbiose avec du fait qu'ils vivent en symbiose en fait avec la nature, mais qui prêtent aussi à la nature des considérations politiques, sociales, etc. Mais ici dans nos contrées, effectivement, depuis les Celtes, on sait qu'il y a des cultes qui sont voués aux arbres et qu'on leur reconnaît même, on leur reconnaissait, et encore aujourd'hui à Stambruge, il y a un arbre à clous, un arbre à loc, donc on leur reconnaissait des vertus guérisseuses, par exemple l'arbre à Locke. Après, je vais passer la parole à Chloé qui pourra davantage répondre à ta question. C'est un arbre sur lequel les personnes viennent clouer des morceaux d'habits qui ont été en contact avec la peau d'un malade afin oui, en espérant que, en fait, la personne guérisse. Donc, et ça, c'est une pratique qui a cours depuis très longtemps dans nos contrées. Et il y a encore des arbres comme ça. Enfin, pas énormément. En tout cas, nous, on en a vu un. J'en ai vu un à Stambruge. Voilà. Et qui est encore aujourd'hui, je sais pas, apprécié par la population. Voilà. Mais je vais laisser la parole à Chloé. Voilà. Pour répondre plus avant à ta question.
Oui, comment la prendre, cette question ? En fait, j'ai été sollicitée pour réfléchir justement à cette question d'une mise en histoire de rapport aux arbres. Alors évidemment, dans un petit article comme ça, c'est sûrement assez superficiel. Mais c'était quand même intéressant de le mettre dans une longue perspective de plusieurs siècles, en fait, pour se rendre compte qu'en fait, dans la ville ancienne, enfin les traces qu'on peut en trouver, il y a des mentions d'arbres. Alors remarquées, j'ai pas envie de dire remarquables, parce que ça c'est fort lié à une période de l'histoire, mais en tout cas des arbres qui étaient remarqués suffisamment pour avoir leur place dans la façon dont on désignait les lieux. Et donc, à Bruxelles, dans ce qu'on appelle la toponymie, donc les noms de lieux anciens, il y a plein d'endroits où on mentionne des tilleuls, par exemple. Le tilleul, le chêne, le hêtre, sont les essences qui apparaissent le plus dans la toponymie bruxelloise. Et on peut imaginer que s'ils ont laissé leur nom dans la toponymie, c'est qu'ils avaient, c'était des repères, bien sûr, pour se diriger, mais aussi sans doute des êtres quelque part. D'autant que certains d'entre eux, on sait qu'ils avaient, un peu comme ce que Stéphanie vient de raconter, qu'ils avaient des vertus guérisseuses. Et donc, on connaît par exemple la rue de l'Arbre Béni à Ixelles, dont l'arbre n'existe plus depuis longtemps, mais cet arbre-là faisait l'objet alors d'un culte probablement très ancien, plutôt païen, mais repris par la religion chrétienne. Hein, souvent, il y a quand même une colonisation chrétienne de tous ces cultes plus anciens. Et donc, on voit bien que dans la ville ancienne, les arbres avaient déjà une place importante, avec des vertus qu'on leur attribuait. Et puis, donc là, je parle vraiment d'une ville qui remonte à l'époque médiévale. Et puis, on va voir que l'arbre, au fil des siècles qui ont suivi, va être plutôt, je dirais, très binaire dans sa signification politique. Enfin, binaire. En tout cas, chargé par des groupes sociaux différents, de valeurs différentes. Pour les classes sociales aisées, aristocratiques, l'idée c'est de faire venir des arbres de loin, pour aménager les jardins, parce qu'ils sont le symbole finalement d'une puissance, d'une capacité à faire revenir des choses de loin, donc d'un rapport à des espaces lointains qu'on domine. C'est aussi, il devient progressivement quelque chose qui va devenir encore plus par la suite une sorte de mobilier urbain, c'est-à-dire qu'on va le mettre le long des artères, on va les organiser le long des artères, mais pas vraiment pour leur valeur qu'on appellerait écologique ou écosophique aujourd'hui, mais plus pour leur valeur esthétique d'organisation de la ville, hein, les grandes allées où on pouvait se promener. Donc ça, du côté plutôt des classes socialisées, on va dire, et puis du côté populaire, une vieille tradition européenne de charger l'arbre de connotation importante du point de vue du sens de la communauté. Prendre soin des arbres ensemble, en communauté, est aussi un des axes le long desquels les rapports à l'arbre se sont construits, qu'on retrouve dans la tradition des arbres de mai, où on va couper un arbre quelque part, mais on a quand même un rapport à lui ou à eux, et on le ramène au centre du village ou des quartiers, et ils peuvent avoir une valeur très symbolique, très forte pour les quartiers, hein, notamment dans le cas du Maybaum. On ne va pas raconter toute l'histoire du Maybaum ici, mais au départ c'est un peu ça, planter un arbre comme symbole du quartier, mais donc d'une communauté, mais qu'on va retrouver aussi dans la période révolutionnaire à la fin du 18e siècle, début 19e siècle, où on va planter des arbres qu'on va appeler les arbres de la liberté, des arbres qui symbolisent de nouveau une forme de sens de la communauté populaire par rapport aux privilèges et aux dominateurs.
Et du coup, cette réappropriation par le collectif, effectivement, elle n'est pas nouvelle, comme tu viens de l'expliquer, mais est-ce qu'elle montre toujours actuellement cette opposition entre des savoirs populaires qui étaient plus enclins à trouver des vertus aux arbres, à leur environnement, et les classes élevées qui n'y voyaient qu'ornement? Est-ce que ça se joue encore maintenant?
Oui, je pense. Enfin, je veux pas faire de longs discours à ce propos-là, mais je pense, oui, effectivement, que l'appropriation, en tout cas les rapports aux choses de la nature et les arbres, donc, ne peuvent pas être envisagés d'un point de vue neutre qui serait universel. Chaque groupe social peut avoir des rapports différenciés avec ces choses de la nature. Et aujourd'hui, je pense, puis Amandine pourra peut-être enchaîner ou pas, on verra là-dessus. Mais c'est vrai que la défense des arbres en ville, à Bruxelles, émane de certains groupes sociaux, bon, qui ont des, comme on dit, des capitaux culturels ou sociaux particuliers, ou en tout cas qui ont un certain capital culturel ou social, et qui se mobilisent autour des arbres avec ce bagage pour la défense d'une ville à leur image. Et donc, oui, aujourd'hui, dans la défense des arbres, il y a sûrement des lignes de tension qui sont des tensions sociales, mais comme avec n'importe quel objet de la nature qui n'existe pas en soi, comme le disait Stéphanie, mais qui existe à travers les rapports sociaux et les regards que différents groupes sociaux peuvent porter sur eux.
Et justement, dans les deux articles, ben celui de Stéphanie où tu as rencontré un philosophe et celui d'Amandine où vous montrez bien comment c'est devenu un sujet de droit aussi, vous montrez bien justement cette évolution dans la perception qu'on peut avoir et dans le rôle qu'on peut donner aux arbres, comment on les considère et quelles sont nos relations avec eux et comment l'être humain aussi peut se positionner face aux arbres et entre guillemets la nature en général.
Il y a l'arbre en ville, il a une notion vraiment spécifique, les combats pour l'arbre, ils se passent pas de la même manière en milieu rural et en milieu urbain en fait, nous c'est ce qu'on voit. Donc je travaille pour une association qui est active et en Wallonie et à Bruxelles, et les mobilisations pour l'arbre, elles se passent vraiment différemment qu'on se trouve à Charleroi ou à Morlanwé ou autre, parce qu'on a un rapport à la nature parfois qui est un peu différent et spécifiquement à l'arbre. Et je crois que c'est déjà un premier élément. Et je crois que pour se mobiliser à l'arbre, pour le défendre, pour ressentir un lien à celui-ci, d'abord il faut en voir, en fait. Et il n'y en a pas partout de la même manière à Bruxelles. Et ça, c'est clair qu'on a un rapport à l'arbre, déjà à partir du moment où on le rencontre, plus ou moins régulièrement. Sur la question aussi de est-ce que l'arbre est un individu ou est-ce qu'il fait partie d'une communauté, en milieu urbain, déjà il est difficile à être en communauté justement parce qu'il est souvent un individu au milieu d'une voirie ou quelques individus au milieu d'une voirie dans un bac et donc il a du mal à être en communauté avec les autres et pourtant maintenant la littérature scientifique elle a plus trop de doutes sur sa nécessité à être en communauté pour sa bonne santé et donc je crois que déjà ça c'est des éléments qu'on devrait apprendre à prendre en compte en ville et qui devrait petit à petit de plus en plus structurer la ville. Et en plus, en région de Bruxelles-Capitale, on a différentes choses qui sont chanceuses, entre guillemets. C'est qu'on a une forêt, la forêt de Soignes. Et donc on a la chance de voir des arbres en communauté, voir comment ils évoluent, etc. Et c'est cette forêt de Soignes aujourd'hui dont il faut prendre soin. Et il faut aussi peut-être faire tout un travail en région de Bruxelles-Capitale pour qu'elle soit plus accessible à tous. Essayer vraiment d'en faire un cadeau pour tout le monde. Ça, c'est, je trouve, une réflexion à avoir pour tous les Bruxellois. C'est comment on veille aux soins de la forêt de Soignes, parce que plus on y va aussi, plus on piétine ses racines, plus on... Et donc comment on prend soin tout en la laissant accessible et comment on la rend plus accessible à tout le monde, comment on veille que tous les quartiers aient accès à la forêt et donc peut-être faire des forêts de Soignes un peu plus à divers endroits en région de Bruxelles-Capitale. Donc ça, c'est assez important. Et je pense qu'il faut aussi... En fait, chez les naturalistes, on voit l'arbre aussi dans ses fonctions écosystémiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va apporter en termes de rétention d'eau, en termes de, mais aussi en termes d'habitat. Et en région de Bruxelles-Capitale, je mets ça sur le dos des historiens ou de la passion qu'ont les Bruxellois pour leur patrimoine. Mais en tout cas, on a réussi à préserver énormément de vieux arbres. Et ça, c'est une chance, parce qu'en fait, en préservant des vieux arbres, on préserve des grosses cavités. Dans les vieux arbres, plus, ça se fait plus facilement des gros trous, et donc les espèces s'y installent plus facilement. Les vieux arbres aussi, en termes d'habitat, globalement, ça va permettre plus facilement à tout ce qui est petits insectes de venir s'y installer. Et il n'y a pas ça dans beaucoup d'autres grandes villes. C'est vraiment une spécificité bruxelloise et ça permet un équilibre entre les différentes espèces. S'il n'y avait pas autant de vieux arbres en région de Bruxelles-Capitale, on ne parviendrait probablement pas à avoir un équilibre avec certaines espèces, on va dire, considérées comme exotiques, comme les perruches ou autres. C'est par ce travail de protection du patrimoine qu'on arrive à garder de la place pour tout le monde, entre guillemets. Et par contre, ce qui se passe sur les dernières années, c'est que dû aux sécheresses, dû au fait qu'on a tous eu envie d'aller dans les parcs ou à proximité des arbres dans le cadre du Covid, où qu'on s'est rendu compte que c'était très très important, eh ben on met un peu à mal ce patrimoine. Et donc on se retrouve pour, souvent ce sont des questions de sécurité qui sont invoquées, eh ben, l'arbre il est pas bien ou il est malade et donc on doit l'abattre. Et donc, en fait, les équilibres qui sont atteints aujourd'hui dans le cadre du patrimoine des arbres anciens, il est un peu mis à mal. Et donc, ça nous amène à se dire, bah, tiens, en fait, quand je vois un vieil arbre ou quand je le trouve très beau, etc., bah, en fait, je dois encore plus prendre soin de celui-ci. Et quand IEB est venu vers moi pour dire, ah, on ferait pas un numéro sur les arbres, ça m'a amené aussi à se dire, c'est chouette en fait, c'est le bon moment pour le faire, parce que c'est le bon moment pour repenser notre relation aux arbres au vu de tout ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est-à-dire les sécheresses répétées et donc les populations arboricoles qui vont moins bien, vu les enjeux de sécurité qui sont extrêmement présents pour l'instant, où on abat beaucoup d'arbres pour des questions de sécurité, mais aussi le rôle que l'arbre pourrait ou pas jouer dans l'habitabilité de la ville, dans la viabilité de la ville dans le futur. Et donc, j'étais assez contente, et encore plus sachant que dans le cadre de la crise sanitaire, pas mal de gens ont commencé à rester chez eux, à être contraints d'être chez eux, et parfois ça les a amenés à regarder ce qu'il y avait dans leur environnement, et dont les arbres. Et donc nous, on a vu les interpellations pour les protections d'arbres vraiment augmenter, quoi. Et se dire, oh non, on a un arbre là, oh non, j'ai vu une affiche, est-ce que l'arbre est en danger, etc. On a vu vraiment, normalement, des dossiers qui s'étalaient sur toute une année. J'avais le même nombre de dossiers sur certaines semaines pendant la crise Covid. Et donc, c'est aussi intéressant parce que cette crise sanitaire, elle a re-questionné notre relation à la nature. Et donc, j'étais assez... heureuse de voir arriver ce sujet dans les BEM, et je m'en suis réjouie. Après, force est de constater qu'en effet, la lasagne administrative bruxelloise, elle ne facilite pas la protection des arbres. Et elle ne facilite pas le fait que des citoyens et citoyennes se saisissent de cette lasagne pour, envers et contre tout, protéger ces arbres. Parce que c'est extrêmement complexe, même si certaines administrations sont plus proactives que d'autres. Globalement, c'est pas facile de comprendre à qui on doit s'adresser pour protéger un arbre et comment on peut le faire.
Et puis, j'imagine qu'il y a des situations aussi où les intérêts sont contradictoires, où les différentes parties de la lasagne donnent des infos contradictoires, ont des objectifs aussi d'aménagement du territoire différents, qui fait que ça renforce encore la difficulté citoyenne, même si dans le numéro, on voit à la fois qu'il y a eu des victoires et...
Des défaites. Non, mais c'est clair qu'il y a des enjeux, parce que en fait, il y a quelques récits de terrain effectivement dans le BEM, notamment celui sur le bois georgien, qui est une friche qui s'est ensauvagée à l'arrière de la RTBF pendant 60 ans sans intervention humaine, et donc un bois pionnier avec des arbres pionniers a pris racine. Et donc là, ce bois qui fait quand même 8 hectares, c'est une superficie de 8 hectares, cette friche, était menacée de coupe rase, c'est-à-dire où on coupe tout, du long, par le plan d'aménagement directeur Mediapark, qui est cette grande cité des médias qui est en train d'ailleurs, il y a déjà des bâtiments qui sont construits. Et donc forcément, il y a un comité de quartier qui est né dans la foulée de ce pas de Mediapark, et qui a dit, non, il faut défendre ce bois. À plus forte raison que l'idée, c'était, on coupe ce bois, ou quasi sa totalité, pour créer un parc urbain, récréatif, dédié à la promenade, aux loisirs, etc. Ce qui est une aberration en termes de biodiversité, comme vient de le dire Amandine, à savoir que ce bois, en 65 ans, il abritait une faune et une flore incroyables. Un bois pionnier, il y a des lérots, enfin, dans le BEM, et des chauves-souris aussi, il y a un gîte de chauves-souris, etc. Et donc ça veut dire que c'est pas juste des arbres qu'on abat, c'est toute une communauté d'êtres et de vie qu'on sacrifie. Voilà. Pardon. Et donc, ce qui est aussi intéressant, il y a un autre récit sur un être pleureur qui a été rasé. Et là aussi, on voit qu'il y a des enjeux contradictoires, à savoir que lorsque la parcelle où ce être est racheté pour une construction, on va maintenir le être pleureur qui est remarquable. Il est isolé, il n'est pas en communauté, mais il est quand même remarqué, remarquable. Il est gigantesque et on le maintient en vie. Pourquoi ? Parce que en fait, il atteste de la qualité environnementale du site, c'est-à-dire qu'il va faire vendre des appartements.
Et puis les aménités.
Oui. Et c'est une parcelle, c'est rue des Coccinelles, c'est à Boisfort. On est tout près de la forêt de Soigne, il participe à un couloir écologique, enfin, tous ces grands discours-là. Et puis, in fine, en fait, la construction, le chantier vont malmener cet arbre qui est déjà séculaire, qui a déjà plus de 100 ans, parce qu'on peut le voir sur les photos aériennes bien avant. Donc, on s'est retracé sa longévité, voilà. On peut aussi le faire quand on prélève son écorce ou n'importe quoi. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans des détails de ce niveau-là. Mais toujours est-il qu'in fine, il sera rasé parce qu'on considère qu'il devient dangereux pour l'humain, parce que en fait on l'a fragilisé, on a fragilisé ses ressources en nutriments, ses racines, nanana. Et puis finalement tous les appartements sont vendus, les gens trouvent que en fait les branchages font ombrage, nanana. Et donc on coupe cet arbre. Oui. Et donc il y a quand même une distorsion, une fameuse distorsion là, qui est difficile à comprendre et à valider. C'est très difficile d'accepter un tel sort, alors que quand sur la vidéo qui fait promotionnelle de la vente des appartements, l'arbre majestueux,
il trône en première page.
C'est quand même un attrait, c'est genre on voit ce bâtiment et l'arbre est aussi grand à côté et c'est magnifique quoi, mais on le coupe.
Mais c'est la question aussi de notre capacité à cohabiter. C'est quand on veut des façades végétalisées ou autres, ça pose très clairement cette question, parce qu'à partir du moment où on a des façades végétalisées, à partir du moment où on a ce genre de dispositif, en fait, on va potentiellement avoir des petites araignées qui vont rentrer à l'intérieur. Un arbre, ça va potentiellement apporter de l'ombre, ou avoir des oiseaux ou autres qui vont faire des déjections à côté de sa fenêtre. Et donc, c'est cette question-là aussi que ça pose notre relation à l'arbre ou à la nature dans son ensemble. C'est qu'est-ce qui est acceptable dans notre cohabitation ? Comment construire notre cohabitation avec le vivant dans son ensemble ? Déjà, vivre en colocation, c'est compliqué, mais toutefois, on peut verbaliser notre relation. On peut, alors qu'avec la nature, on pourra déjà pas utiliser la parole. On doit observer tout ce qui s'y passe et puis voir comment on va pouvoir faire ensemble. Et c'est extrêmement compliqué. Et on est encore et toujours en train de construire ça. Et spécifiquement en ville, on en a encore moins l'habitude qu'ailleurs. Donc, cette question, elle est essentielle pour le futur de la ville aussi.
Oui, mais c'est une invitation à penser en termes de relations, en fait. Tout le temps, partout. Relations entre les humains, relations aux arbres, mais aux arbres en tant que collectif aussi, c'est un petit peu ça, je trouve, qui traversait aussi le BEM, c'est qu'on a toujours une forme de tension entre, et on l'a dit au début, entre l'arbre comme individu, l'arbre remarquable. Moi, je trouve que c'est une valeur, en fait, je peux pas m'empêcher de voir que c'est une valeur très bourgeoise, quoi, hein, c'est le bel arbre comme le grand homme, masculin, bien sûr, et donc cette tension entre l'arbre individuel et puis quelque chose qui ressemble à des collectivités d'arbres, ces collectivités d'arbres elles-mêmes en relation, tu l'as bien dit Amandine, avec des communautés d'autres types d'êtres, et puis nous en tant que communauté reliée à ces ensembles-là. Alors en ville c'est particulièrement compliqué évidemment, enfin en tout cas parce que il y a des bâtiments partout, on a moins la perception qu'on est en relation avec ces ensembles de communautés, mais effectivement je trouve que c'est les grands horizons qui nous attendent, c'est de repenser la ville comme un ensemble de communautés aussi, y compris des communautés de vivants, quoi. Mais les arbres comme communautés aussi.
Et c'est justement ça dans l'article sur la forêt de Soignes que tu as évoqué. Merci Chloé, qui essaye de s'en aller à petits pas. Mais qui montre justement la nécessité de pouvoir envisager aussi la communauté des arbres comme une communauté vivante qui peut progresser, qui a des relations entre elles et qui faut à la fois laisser vivre, on va dire, mais aussi entourer, accompagner, enfin rentrer en relation équitable, on va dire, d'égal à égal avec les communautés d'arbres qui nous entourent.
Aujourd'hui, la forêt de Soignes, c'est encore et toujours considéré comme une exploitation, une forêt d'exploitation. Donc, elle est là pour son patrimoine, mais aussi pour produire du bois, principalement au service de la Chine. Bon, voilà, il faut le dire aussi. même s'il y a des initiatives qui vont à l'encontre de ça, quand on coupe des arbres en forêt de Soignes, c'est soit parce qu'on considère qu'ils représentent un danger et qu'ils nous empêchent de nous déplacer en tant qu'humains dedans, ou bien c'est pour produire du bois pour qu'on fasse des meubles ou que sais-je encore. Et le bois de la forêt de Soignes, bah, c'est du hêtre, c'est du beau bois, etc. Mais la forêt de Soignes, elle n'est pas encore du tout pensée comme ce que certains appellent une forêt en libre évolution. On pourrait parler d'une forêt en toute liberté ou autre. Et ça, c'est un des articles, en effet, du BEM. Il a la volonté d'expliquer que c'est possible, d'expliquer que c'est faisable et d'expliquer que ça a sa place et que ça a sa place encore plus en région de Bruxelles-Capitale pour rappeler que même une forêt en libre évolution, en milieu urbain, c'est acceptable et c'est possible.
Et ça ne prive pas les humains d'y être.
Que du contraire, que du contraire, en fait. Ça leur apportera encore plus de choses, je pense. En fait, par contre, il y a quand même une attention particulière à avoir. Ici, on est en train de parler d'arbres et de son rôle et de la relation qu'on a avec celui-ci. Mais il ne faut pas oublier que la biodiversité, la nature, elle fonctionne parce qu'il y a une diversité de milieux. Pas que de milieux composés d'arbres, mais aussi de prairies, mais aussi de zones humides, etc. Et qu'on ne pourra pas faire fonctionner l'ensemble du système, que le système dans son ensemble ne pourra pas fonctionner de lui-même, devrais-je dire, si on ne préserve pas non plus la diversité de ces milieux. On ne doit pas commencer à planter des arbres partout, parce que c'est ce qui va nous permettre de survivre au changement, avec un S, climatique. Et ça, c'est aussi important à avoir en tête. Et c'est aussi d'autant plus important à avoir en tête que il y a un risque quand même aussi en milieu urbain, qui est plus important qu'ailleurs, d'uniformiser la nature. Vous voyez, de planter le même arbre au même endroit, de manière répétée, de manière concentrée à un endroit, et de vouloir planter des arbres partout. Et ça, il faut aussi avoir conscience que le système, il ne fonctionne pas comme ça. Et dans cette préservation des communautés en milieu urbain, etc., c'est aussi cette reconnaissance de la diversité et de laisser à ces diversités la liberté d'évoluer à leur propre rythme et de leur propre manière. Et c'est peut-être ça, l'opportunité d'offrir à la forêt de Soignes une libre évolution. C'est aussi de réapprendre cette liberté, ça apporte plein de choses à tout le monde et c'est une vraie opportunité de co-construction, de cohabitation avec des communautés qui savent saisir leur liberté.
Et justement, ce lien, je trouvais intéressant quand même le fait qu'on avait quand même tendance à ne pas utiliser le bon langage non plus pour parler des arbres et avoir ce langage plutôt économique, enfin de les traiter comme si c'était des objets. Est-ce que ça Est-ce que cette vision, Stéphanie, que vous montrez bien dans l'article avec
Quentin Yernaud.
Voilà, Quentin Yernaud, philosophe, mais aussi quand on parle des notions d'écocide et tout ça, est-ce que ça montre justement cette nécessité de pouvoir repenser notre langage aussi et de pouvoir nommer et désigner correctement ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faut faire.
C'est clair que l'attention portée c'est difficile parfois aussi même de nommer, mais je pense qu'il faut oser les stratégies politiques à l'œuvre qui souhaitent donner réponse au dérèglement climatique au pluriel, hein, parce qu'ils sont pas partout pareils, et ils sont hyper localisés aussi, etc. Donc il faudrait même revoir le langage qu'on utilise par rapport au changement climatique. S'inscrit dans une vision quand même assez marchande de la nature. Voilà, on est quand même dans un système capitaliste néolibéral et la nature elle est dans l'équation. Elle est dans l'équation, et c'est pour ça que effectivement quand on parle de services écosystémiques, c'est des services rendus par la nature aux humains pour leur permettre en fait de survivre dans les milieux qu'ils habitent, typiquement la ville, en milieu urbain, etc. et qui seront une compensation aux îlots de chaleur, donc apportant la fraîcheur, apportant l'absorption, enfin ça, Amandine l'a dit tout à l'heure, réponse aux inondations, etc. Évidemment, mais c'est pas une manière de repenser en fait la façon dont les humains s'organisent. Il y a un impensé. C'est juste une réponse qui est donnée pour pouvoir continuer à faire la même chose. Souvent, c'est, et donc typiquement on le voit dans. En plus, Amandine vient de dire oui, l'idée c'est pas de planter des arbres partout et de faire ça, alors que quand même dans les politiques, les stratégies politiques à l'œuvre aujourd'hui, c'est Yes We Plant. C'est un vrai nom qui est donné à la politique d'un programme en Wallonie de replantation, etc. Qui a certaines vertus, notamment pour les haies, replanter des haies alors qu'on a tout saccagé et qu'on a coupé les haies dans les années 80 pour les fameux remembrements agricoles et créer des énormes parcelles, hein, voilà, de l'agroalimentaire en fait. Hein. Et là, on revient à une conception plus bocagère, etc. Donc, ça, c'est très bien. Mais penser que l'arbre va neutraliser le climat, c'est quand même, on est dans une logique économétrique en fait.
On plante quelques arbres et on continue à produire comme on produit.
Voilà, ça. Ils vont quand même absorber toute cette maudite molécule de CO2 et donc c'est parfait, ils vont neutraliser le climat. C'est un peu court et c'est très dommageable. Donc voilà. Et justement, enfin voilà, c'est une des approches du BEM notamment aussi de voilà, et c'est l'article qui est écrit justement par Forêt et Naturalité pour une forêt de soigne en libre évolution. C'est Alain Paquet qui a rédigé cet article, est très intéressant à ce niveau-là, parce que s'il bat en brèche une conception qui sacraliserait la nature, c'est-à-dire que une forêt en libre évolution ne pourrait pas être fréquentée par les humains. Non, c'est faux. Et donc il démontre tout ça, mais il démontre aussi que effectivement il y a une attention particulière à avoir. Et juste un dernier point, ça c'est Quentin Yernaud aussi qui revient là-dessus dans notre échange, dans la discussion qu'on a pu avoir à deux. C'est de constater aussi que les enfants, dès leur plus jeune âge, n'ont plus accès en fait à une éducation à la nature, aux arbres, etc. Il y avait des cours de botanique à l'école primaire, ils n'existent plus, on fait plus d'herbier, etc. Et donc, en fait, on n'apprend plus à regarder l'altérité. Alors, si on veut reconnaître une altérité, une différence, ben, il faut éduquer le regard. Et donc, c'est déjà un préalable, en fait. Pour faire attention à quelque chose, à quelqu'un, ben, il faut poser le regard, c'est une éducation du regard Et voilà. Ouais. Et ça, ça a disparu.
Mais c'est ce que Amandine disait, que pour se préoccuper des arbres, il faut les connaître, il faut les voir, il faut, et les voir aussi dans leur globalité, et pas juste l'arbre devant chez soi sur le trottoir, dans son petit, sa petite cage de béton, et de ciment. Et, je vois que le temps file. Et je conseille à tout le monde de se procurer au plus vite ce BEM. C'est une très belle lecture. Je ne sais pas, Amandine, si tu voulais rebondir encore un dernier élément, justement sur l'aspect plus juridique. Quelle importance ça a pour les arts, pour la nature, de devenir ce sujet juridique, politique.
Ben, c'est une question de savoir est-ce que le droit sera un outil pour faire évoluer les mentalités, ou est-ce que les mentalités doivent d'abord évoluer avant que le droit ne puisse se transformer. Mais en tout cas, j'ai bon espoir qu'au travers des réflexions, même si ça ne s'implémente pas, sur l'écocide ou encore sur une réforme du COBETS qui est en réflexion aujourd'hui, ou en tout cas une évaluation des dernières réformes du COBETS, du Code d'aménagement bruxellois, on puisse en tout cas se rendre compte que l'arbre n'est pas un mobilier, mais un être avec lequel on doit qu'on doit connaître et qu'on doit réapprendre à être en relation.
Eh bien, merci à toutes les deux, à Chloé qui est partie. Et donc, le BEM, on peut se le procurer dans plein d'endroits, dans plein de cafés, les bibliothèques et tout ça. On peut s'abonner aussi.
Oui, c'est bien de s'abonner
c'est
au BEM.
C'est bien de s'abonner.
Pas cher, pas cher.
et c'est un soutien, en tout cas, au travail d'IEB, au travail de rédaction que vous faites, de vulgarisation et de donner à comprendre tous ces enjeux qui nous entourent. Merci beaucoup encore, Amandine et Stéphanie, d'être venues de grand matin.
Merci, Joël.
J'étais ravie de faire ma dernière matinale de la saison avec vous. Et donc, on se retrouve début septembre, et d'ici là, auditeurs, auditrices, passez un bel été, et n'oubliez pas, restez à l'écoute de Radio Panique qui sera en direct de Laeken pour différentes rencontres et émissions en direct, c'est tout cet après-midi, mais à la suite ici, maintenant c'est Radio Mukambo que vous retrouvez avec les Summer Grooves. Voilà, bonne journée à toutes et à tous.